Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les freins au changement, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 10. Je reçois Marion, diplômée de l'ESSEC, qui nous raconte son parcours dans l'économie sociale et solidaire grâce au programme On Purpose et son engagement actuel pour l'agroécologie avec l'association Ferme d'Avenir. On parle de RSE, de climat et bien entendu de changement. Bonne écoute! Bonjour Marion.
Bonjour JP.
Marion, tu as 33 ans et tu es diplômée d'école de commerce. En 2016, tu as rejoint le programme On Purpose pendant un an après un début de carrière dans une entreprise de logiciels. Et depuis, tu as changé de voie puisque tu travailles désormais chez Ferme d'Avenir et que tu es aussi investi dans l'association The Climate Reality Project. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et ce changement de voie ?
Oui, avec plaisir. Comme tu l'as dit, moi j'ai fait une école de commerce. J'ai fait la prépa intégrée de l'ESSEC. Avec la volonté à l'époque de travailler dans le commerce international. Je me destinais un peu à une carrière d'expat parce que j'ai fait un double diplôme avec une université chinoise, donc j'ai vécu pendant un an et demi en Chine pendant mes études. Ensuite, j'ai fait un petit saut aux États-Unis pour faire un stage. Enfin voilà, j'avais un parcours assez international et je m'imaginais à 30 ans travailler à l'étranger, revenir de temps en temps en France, mais vraiment avoir une carrière internationale. Mais depuis toujours, j'avais cette volonté aussi de travailler pour un secteur avec du sens. Alors, je ne savais pas très bien quel mot mettre dessus quand j'étais plus jeune, mais je sais que tout ce qui était thématique de protection de la nature, humanitaire, etc., ça m'intéressait beaucoup. Et donc, quand il a fallu, dans mes années étudiantes à l'ESSEC, me spécialiser, faire des stages, etc., c'était un petit peu l'explosion de tout ce qui était commerce équitable en France à l'époque. Et du coup, j'ai cherché à faire des stages là-dedans. Ça n'avait pas trop fonctionné à l'époque. Et puis, de retour de Chine et des États-Unis, je devais travailler sur mon mémoire de fin d'études. Et je me suis dit, étant donné que j'ai aucune expérience, mais que c'est le secteur dans lequel je veux travailler, il faut que j'essaye d'accrocher des cordes à mon arc le plus possible pour apporter une espèce de patine un peu à mon CV sur ces thématiques sociales et environnementales. Donc la première chose que j'ai faite, c'est dédier mon mémoire de fin d'études à une thématique comme ça. En fait, à l'époque, c'était en 2009, et donc il y avait eu l'année d'avant les émeutes de la faim. Et comme il y avait beaucoup d'articles et de journaux qui accusaient un peu la Chine d'avoir fait pression sur les marchés alimentaires, le marché des céréales, et avait fait augmenter les prix sur les marchés, j'ai dédié mon mémoire de fin d'études à ce sujet-là. Et ça m'a passionnée et j'avais rédigé un assez bon mémoire sur le sujet. Et du coup, ça a été un petit peu une des premières petites choses que j'ai pu mettre sur mon CV sur ces thématiques sociales et environnementales. Et puis un jour, je pense que c'était le dernier semestre de cours à l'ESSEC, on a eu un cours sur le développement durable. Et donc, quand j'ai entendu les profs expliquer ce que c'était, je me suis dit, ça y est, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment cette alliance entre une dimension environnementale, une dimension sociale. Ça y est, j'ai enfin le mot sur cette force qui me pousse depuis longtemps et que je ne savais pas trop nommer. Et donc, je me suis dit, ça y est, je veux travailler dans le développement durable, et maintenant, comment on fait ? Et donc, encore une fois, j'avais presque pas d'expérience. Et donc, j'ai décidé de faire un master sur ce sujet-là. Donc, j'ai été prise à l'ISC Paris, qui proposait un master en développement durable. Donc, pendant un an, j'ai appris bilan carbone, responsabilité sociétale des entreprises, tous ces sujets-là. Et en parallèle, j'ai fait une mission humanitaire au Ghana, qui était assez intéressante. Et puis à la fin de mon master, faut trouver son premier boulot. Et là, j'ai été prise en stage dans une entreprise qui faisait des logiciels de données non financières. Donc comme ça a l'air un peu barbare, mais en fait, c'est tous les logiciels qui gèrent, par exemple, les fameuses données de responsabilité sociétale des entreprises. Par exemple, demain, une grosse boîte qui doit faire son bilan carbone, elle ne fait pas ça avec des fichiers Excel, elle fait ça avec des logiciels parce qu'il faut aller collecter les données sur les différents sites ou les différentes usines, il faut les agréger, il faut les mouliner, il faut faire ressortir des indicateurs. Et donc, voilà. Donc moi, la boîte dans laquelle je travaillais s'appelait Enablon. C'était un des leaders français, même mondiaux, de ces logiciels-là. Et moi, je travaillais en stage sur une plateforme collaborative pour les professionnels du développement durable. Et puis finalement, le stage s'est transformé en CDI et je suis restée 6 ans dans cette entreprise. Donc, j'avais des missions qui étaient à la fois très axées sur le digital, parce qu'on travaillait sur des plateformes SaaS, donc vraiment très marketing digital, et puis aussi avec une dimension très forte, évidemment, sur tous les sujets transversaux de la responsabilité sociétale des entreprises. Que ce soit, par exemple, on pouvait faire des plateformes qui allaient auditer les usines en Asie du Sud-Est pour les conditions de travail de l'industrie du textile. On pouvait faire des plateformes de sécurité sur les plateformes pétrolières ou des plateformes, voilà, comme j'ai dit précédemment, de calcul de l'empreinte carbone des entreprises françaises ou mondiales.
Ça a l'air très chouette comme activité. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté alors ?
En fait, c'était effectivement une super première expérience parce que déjà, j'ai tout appris là-bas. Parce qu'il y a une anecdote que j'aime bien citer, en fait, c'est que quand moi, je suis rentrée dans mon école de commerce en 2004 et je suis sortie en 2008. Et en fait, quand je suis rentrée, on avait des cours de marketing très classiques, les 4 P, le marketing mix et tout. Et puis quand je suis sortie et que je suis arrivée chez Enablon, on m'a dit, voilà, tu vas être community manager, tu vas gérer un compte Twitter. Et en fait, je fais vraiment partie de la génération où Facebook et Twitter ont été inventés pendant mes études. Donc évidemment, on n'avait pas de cours pour apprendre la communication digitale. Donc j'ai tout appris sur le terrain. Et bon, c'était pas très compliqué parce que c'est notre génération, mais c'est vrai que c'était rigolo de sortir de l'école et d'être déjà, entre guillemets, presque un peu has-been en termes de compétences parce qu'on me demandait des choses que j'avais jamais vues. Et donc voilà, j'ai appris tout ça chez Enablon, c'était super intéressant. Par contre, au bout de 6 ans, je pense que c'est aussi l'évolution normale. Quand ça fait 6 ans que t'es dans une boîte, t'as un petit peu fait le tour. J'avais plus trop de perspectives d'évolution parce que certains projets s'arrêtant, moi j'avais été mutée dans une autre équipe et j'avais pas forcément de casquette qui me plaisait dans cette nouvelle équipe, je m'entendais très bien avec eux, mais voilà, il y avait plus trop de place pour moi, pour mes ambitions et ce que j'avais envie de faire. Et j'avais aussi une envie très forte de vouloir travailler au plus près de mon impact. Et j'avais un côté un peu militant qui s'était développé et j'avais plus envie de travailler soit avec des entrepreneurs sociaux, soit avec carrément des associations. Parce que c'est vrai que j'avais pas l'impression de me lever le matin et de sauver la planète, j'avais plutôt l'impression de me lever le matin et d'aider mon entreprise à vendre des logiciels. Et c'est vrai que c'était super comme première expérience et ça fait partie des plus belles expériences que j'ai professionnelles, mais ça me manquait, ça allait pas encore assez loin.
D'accord. Et du coup, tu as devancé ma question qui était effectivement de savoir mais qu'est-ce que tu ne ressentais pas dans ton travail chez Enablon que tu as pu ressentir par la suite. Ce qui me permet de faire la transition avec ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez Ferme d'Avenir et à côté ?
Ouais, bien sûr. Effectivement, chez Ferme d'Avenir, j'y suis depuis 3 ans. Et j'ai été recrutée pour m'occuper de toute la communication. Donc j'étais le premier recrutement en com qu'ils aient fait. Donc il y avait tout à mettre en place, mettre en place des process, faire une stratégie, créer des outils pour tout coordonner. Et donc ça, c'était il y a 3 ans. Donc je suis arrivée juste avant le Ferme d'Avenir Tour. Et donc ça a été un énorme chantier parce que pendant un an et demi, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'était une association qui était très médiatisée. Et en plus, on avait beaucoup, beaucoup de projets en parallèle. Ensuite, je suis partie en congé maternité. Et quand je suis revenue, il y avait pas mal d'équipes qui avaient changé. Notamment Maxime, le fondateur, était parti. Pierre, le directeur, avait été parti sur d'autres responsabilités au sein du groupe SOS. Et donc, on a beaucoup restructuré et réorganisé l'équipe. Et donc, j'ai conservé ma casquette de communication, mais j'en ai pris également deux nouvelles. La première, c'est celle de responsable du réseau. Parce qu'en fait, Ferme d'Avenir, on est une association sur l'agroécologie, mais également un réseau de plusieurs centaines de fermes agroécologiques en France. Donc, il faut non seulement fédérer ce réseau, faire que les fermes puissent avoir des outils de communication, puissent avoir des rencontres, des temps d'échange, etc., mais aussi leur proposer des programmes pour les accompagner dans leur challenge quotidien. Donc ça, c'est vraiment une de mes casquettes aujourd'hui qui me prend le plus de temps. Création de programmes et animation du réseau des fermes d'avenir. Et ensuite, la troisième casquette que j'ai voulu reprendre et qui était très importante pour moi, c'était le développement commercial et les partenariats. Et donc en fait, principalement, ça veut dire aller chercher des sous pour Fermes d'avenir. Parce que donc on est une association, on a quelques petites activités de formation et de conseil, mais on a quand même besoin d'aller chercher des sous de mécénat ou d'appel à projet. Et donc ça fait partie de ce que je fais aujourd'hui, aller nouer des partenariats avec des entreprises ou répondre à des appels à projets de fondations pour tout simplement asseoir notre indépendance financière.
Et je me rends compte que j'ai oublié de commencer par le commencement et de te demander comment est-ce que tu as connu Ferme d'Avenir en fait ?
Eh bien, en fait, quand je travaillais chez Enablon, j'avais une grande collègue qui est devenue une grande amie, qui s'appelle Colline, et qui me parlait beaucoup de Ferme d'Avenir, parce qu'elle, elle était super, très fan de la permaculture. Et donc, elle m'en parlait. On était allé voir une intervention de Maxime de Rostolan, un événement. Je crois qu'il y avait Claire Nouvian aussi de Bloom à l'époque. Enfin voilà, on les avait vus en conférence tous les deux, ça m'avait interpellée. Et il se trouve que j'avais des connaissances en commun avec Maxime et donc j'avais eu la chance de participer à une visite de la ferme de la Bourdésière. Et puis un jour, voilà, sur Facebook, j'ai vu une annonce passer. Ferme d'Avenir recherche quelqu'un pour faire sa com, et je me suis dit, c'est génial, moi j'étais justement en train de finir le programme On Purpose, et donc j'ai candidaté. Et voilà, donc c'est un peu, genre, je pense que j'en ai entendu parler, un peu comme tout le monde, quoi. Genre un jour, on se dit, mais tiens, ça fait plusieurs fois que je commence à entendre parler de cet asso, ça a l'air chouette, je vais aller voir un peu plus près ce qu'ils font.
Je me permets de retroper, d'aller encore un petit peu. Tu viens de citer le programme On Purpose. Comment est-ce que tu as connu ce programme aussi ? Qu'est-ce que tu y as fait ? Pendant combien de temps ? Et pourquoi est-ce que tu as choisi de t'engager là-dedans ?
Eh ben, en fait, On Purpose, c'était donc à la fin de je crois que c'était fin 2015. Moi, mon projet venait de s'arrêter chez Enablon, l'un des projets sur lequel je travaillais. Et du coup, j'avais réintégré l'équipe marketing et communication d'Enablon. Et effectivement, comme je te le disais avant, j'étais très contente parce que j'étais bien intégrée, j'aimais bien mon équipe, j'apprenais toujours des choses, mais je manquais de visibilité sur mon impact. En fait, ça me donnait envie d'aller travailler dans la RSE, à toutes ces personnes à qui on vendait nos logiciels, mais ça me manquait vraiment de voir ça. Et donc, je lisais de plus en plus des livres sur l'entrepreneuriat social, parce que c'est un modèle qui me plaît beaucoup, que je trouve qui est très efficace pour à la fois résoudre des enjeux sociaux et environnementaux, mais aussi être indépendant financièrement. Et donc, j'ai lu le livre de Mathieu Dardaillon, le fondateur du Ticket for Change, qui racontait son tour du monde sur l'entrepreneuriat social. Et dedans, il parlait de On Purpose, qui était un programme qui était né au Royaume-Uni et qui formait des jeunes, entre guillemets, en quête de sens dans leur carrière professionnelle. Et donc, il expliquait que le programme venait de se lancer en France. Donc, je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Même si j'étais déjà un petit peu dans ce secteur-là, parce que je travaillais dans la RSE, je m'étais quand même aperçue plusieurs fois que passer de la RSE à Greenpeace ou WWF, c'était pas si évident. Et donc, comme je manquais un petit peu, j'avais eu qu'une seule expérience significative professionnelle, je me suis dit que ce qui était intéressant dans le programme On Purpose, c'est que ça permettait d'avoir deux expériences de 6 mois dans deux structures différentes pendant l'année du programme. Et donc, j'ai trouvé ça très pertinent. Je trouvais aussi que c'était pertinent parce que, contrairement à des gens qui peuvent tout arrêter pour refaire un master et qui du coup ne sont pas payés pendant un an, voire payent 5 ou 10 000 euros pour faire leur master, là, on purpose, ça permettait de faire une transition professionnelle en douceur, parce qu'on est quand même rémunéré pendant le programme. Donc, je trouvais que c'était vraiment parfait. Et donc, j'ai candidaté, tout simplement. Je me souviens que j'étais drôlement impressionnée par le processus de sélection, que je trouvais assez costaud. En fait, ils ont un processus qui est assez original. On ne passe pas des entretiens habituels chez Unpurpose. Et donc, ça m'avait vachement impressionnée. Je me disais, oh là là, mais tu seras jamais prise. Tente même pas. Je me souviens, une fois, je m'étais même mis dans ma to-do de candidater. Et puis finalement, oh non, tu seras jamais prise. Laisse tomber, c'est trop dur. Et puis, j'avais laissé tomber. Et puis, un mois plus tard, j'avais eu un email de rappel en me disant, bon, il reste plus que 2 jours. Et je m'étais dit, bon, allez, c'est un signe du destin. Il faut que tu tentes. Il faut que tu aies confiance en toi. Vas-y. Et puis finalement, j'ai été prise. Et voilà, comme quoi il faut toujours tenter sa chance.
Oui, c'est vrai. Et chez Unpurpose, tu as eu quoi comme expérience? Puisque je crois que c'est 2 stages de 6 mois, c'est ça que tu fais pendant le programme?
Exactement, c'est 2 missions de 6 mois. Donc le programme dure 1 an, 2 missions de 6 mois en CDD dans 2 structures différentes. Donc c'est ça qui fait la richesse du programme aussi. C'est que des fois, on sait qu'on veut aller vers une carrière porte de sens, comme on dit. Mais on ne sait pas trop quoi. On est là, bon, est-ce que c'est plutôt le social ou est-ce que c'est plutôt l'environnemental ou les deux? Et même si c'est l'environnemental, est-ce que c'est travailler sur les déchets, sur l'énergie, sur l'eau, sur la biodiversité? Enfin, il y a plein de thématiques. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir tester plusieurs choses. Et donc, moi, ma première mission, c'était chez Make Sense, qui était une des structures que j'admirais de loin depuis longtemps, un peu comme Ticket for Change. Et donc, j'étais super contente d'avoir eu cette mission-là. Parce qu'en fait, on se choisit mutuellement. En fait, les missions nous sont attribuées. On fait des espèces de speed dating, des speed matching avec les structures. Et donc, elles nous sont attribuées, mais on n'est pas toujours sûr d'avoir la mission qu'on a élue en numéro 1 de nos choix. Donc, j'étais assez contente d'avoir Make Sense. Et la deuxième mission, c'était chez Emmaüs France. Donc, elle était très différente de Make Sense en termes de culture de travail. Et donc, chez Make Sense, je travaillais avec la cofondatrice de Make Sense, Leïla Obala, qui, elle, coordonnait toute la partie conseil de Make Sense, qui s'appelait Common Sense à l'époque. Donc, Make Sense fait des ateliers de créativité pour aider les entrepreneurs sociaux à résoudre leurs challenges. Et bien, Leïla, elle pilotait une équipe qui faisait ça, mais pour les grands groupes. Et donc, l'équipe avait beaucoup... c'était beaucoup agrandi. Je crois qu'en 1 an, ils sont passés de 3 à 10 personnes. Et donc, ça préfigurait beaucoup de changements en termes de management, de structuration de l'équipe, de process, d'outils. Et donc, le but, c'était un petit peu d'accompagner l'équipe dans ce changement d'échelle et d'aider Leïla à un petit peu structurer tout ça et à réfléchir à ce changement d'échelle. Et chez Emmaüs, c'était différent. En fait... mon rôle, c'était de faire un business plan et une étude de faisabilité sur une plateforme de réemploi de livres. Puisque, comme tout le monde sait, chez Emmaüs, on peut aller déposer des vieux livres qu'ils vont trier et remettre en vente au sein de leur communauté. Malheureusement, ils arrivent à vendre qu'une infime partie de ces livres. Et la plupart, en fait, prennent la poussière et finissent parfois en recyclage papier. Et ce qui était dommage... Et Emmaüs s'est aussi rendu compte qu'il y avait pas mal d'acteurs sur le secteur de l'entrepreneuriat social qui, parfois, allaient récupérer justement des gisements de livres chez Emmaüs pour les vendre sur Internet. Et ils se sont dit, c'est dommage, en fait, nous, on pourrait le faire aussi, ça, de vendre tous les livres qui n'ont pas été vendus en physique dans nos communautés, les mutualiser sur des plateformes, les refaire trier par des personnes en insertion et les remettre en vente sur Internet et notamment... sur une plateforme qui s'appelle Label Emmaüs et qui était en train d'être lancée quand j'y travaillais. Et donc, le but de ma mission, c'était d'estimer un petit peu de manière chiffrée les gisements de livres Emmaüs. Est-ce qu'on parle de 500 000 livres, d'un million de livres ou de 30 millions de livres? Et en l'occurrence, il s'agit plutôt de 30 millions de livres chez Emmaüs, donc ce qui est absolument énorme. Ensuite, étudier les conditions de faisabilité d'une plateforme de mutualisation de ces livres avec des salariés en insertion qui récupérerais ces livres, les trierais, les rangerais, ensuite les mettrais en ligne sur Internet, étudier les outils Internet, enfin logiciels, hein, pour pouvoir faciliter le travail, et ensuite les mettre en ligne sur Label Emmaüs. Donc il fallait faire tout le business plan, combien d'emplois on peut créer, combien de livres on peut sauver, enfin c'était vraiment hyper intéressant.
Et à ce moment-là, quand tu as fait cette transition, ce choix de rejoindre On Purpose, comment est-ce que tu t'es sentie et quelle a été la réaction de ton entourage ?
J'avais un peu l'impression de m'être jetée dans le vide, parce que l'air de rien, enfin moi je gagnais bien ma vie chez Enablon, j'avais un CDI depuis 6 ans, je m'étais acheté un appartement, j'avais mes collègues qui étaient devenus des potes, enfin... Ça fait un peu flipper de tout plaquer pour en plus, je plaquais pas tout pour un CDI, quoi. Je plaquais tout pour un CDD. J'avais rien derrière, j'avais le programme et après, j'avais juste mes petits bras pour retrouver du boulot. Donc, c'était un petit peu, j'avais l'impression de sauter dans le vide. Et à un moment, ça fait un peu peur. Et en même temps, je me suis dit, t'es pas plus bête qu'une autre, y a pas de raison que t'arrives pas à retrouver du boulot derrière. C'était un peu moins confortable financièrement parce que j'ai divisé mon salaire par 2,5. Mais bon, moi, j'avais la chance d'être en couple. J'étais mariée, donc quand on est deux, c'est tout de suite plus facile. On était aussi dans une optique très écolo de ralentir, de moins consommer, etc. Donc, l'air de rien, en fait, ça n'a pas trop chamboulé notre style de vie. Mais bon, c'est vrai que c'est comme tout changement, c'est pas évident. Je me souviens, le premier jour chez Make Sense, j'étais là, waouh, ça y est, je l'ai fait, quoi. Je suis chez Make Sense, là, dans ma première réunion, mon premier séminaire d'intégration. Et je suis plus chez Enablon, et c'est flippant, parce qu'il faut se refaire à des nouveaux collègues, des nouvelles manières de travailler, une nouvelle culture, et donc voilà, c'est... Mais en même temps, c'est comme ça qu'on avance dans la vie.
J'en profite aussi pour te demander en quoi la culture des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans lesquelles tu as pu aller travailler, que ce soit Make Sense, Emmaüs et ensuite Ferme d'Avenir, sont différentes, ces cultures-là, de celles que tu pouvais avoir chez Enablon.
En fait, je pense que mon cas, il est un petit peu biaisé parce que Enablon, nous, on était quand même une start-up. Une ancienne start-up, on avait beaucoup grossi et on était une boîte de la tech, mais je veux dire, on n'avait pas on avait des méthodes de travail qui étaient assez agiles, tu vois, tout le monde se tutoyait, on faisait beaucoup de télétravail, on avait beaucoup de team building, donc on n'était pas non plus une boîte plan-plan, quoi. Donc, quand je suis arrivée chez Make Sense, y avait plein de choses nouvelles, mais ça n'a pas été non plus un électrochoc. Et je préciserai aussi qu'en fait, on peut pas mettre toutes les entreprises de l'ESS dans le même sac parce que tu vois, moi, mon expérience chez On Purpose, c'est l'exemple parfait. Je suis quand même passée de Make Sense à Emmaüs. Et je pense qu'on peut pas faire un plus grand écart en termes de culture de travail. Make Sense, j'avais 30 ans à l'époque, j'étais la plus vieille de toute la structure. On devait être 70, j'étais la plus vieille. C'est très, très jeune, très agile, une agilité incroyable. L'innovation, enfin beaucoup d'outils, tu vois, on était sur Slack, on était sur Asana, on avait plein d'outils, alors que bon, chez Emmaüs, pas du tout, quoi, enfin, on travaille avec des gens qui sont dans le mouvement depuis 30 ou 40 ans, qui c'est pas du tout digital, même pour lancer Label Emmaüs, ça a pas été facile au début, il y a beaucoup de réticence pour certains outils, donc tu vois, pourtant c'est toutes les deux des structures de l'ESS et qui sont en plus emblématiques de l'ESS, et pourtant qui ont des cultures de travail qui sont à l'opposé. Et donc voilà, je pense que ce qui caractérise les structures de l'ESS, je dirais que c'est vraiment la gouvernance, parce que c'est des gouvernances qui sont beaucoup plus participatives qu'une entreprise privée où en gros, c'est les actionnaires qui décident, quoi. Que ce soit chez Make Sense, chez Emmaüs et même chez Ferme d'Avenir, on sent que on se met tous ensemble pour prendre les décisions. Et ça, c'est très appréciable.
Sur la question du sens au travail et de ce que tu recherchais et ce qui te manquait à l'époque de Enablon, en quoi est-ce que tu l'as trouvé et comment est-ce que tu peux l'expliquer maintenant que tu es chez Ferme d'Avenir ?
Je dirais qu'il y a deux réponses à ça. La première, c'est que là, je travaille très concrètement sur des thématiques environnementales. Donc, je travaille sur l'agroécologie, qui est entre guillemets, le biomimétisme appliqué à l'agriculture, c'est-à-dire qu'on développe et on met en avant une agriculture qui s'inspire de la nature et qui s'inspire du vivant. Très concrètement, tous les jours, on travaille sur des thématiques environnementales très précises, d'eau, d'énergie, d'agriculture. Et donc ça, c'était quelque chose qui n'est pas fait d'études scientifiques et juste une école de commerce, qui m'attirait beaucoup. Et donc, c'est très agréable de pouvoir y travailler sans être particulièrement scientifique ou agronome, juste en ayant fait de la communication et du commerce. C'est très appréciable quand c'est un secteur qui nous attire. Et la deuxième réponse, ce serait que je vois vraiment mon impact. Et ça, c'est super agréable. En fait, on a plein de programmes différents chez Ferme d'Avenir. On a une structure assez riche. On fait des missions de conseil, on lance des fermes, on forme des agriculteurs et des futurs agriculteurs. On insère des réfugiés dans le monde de l'agriculture via un programme de formation qui leur est dédié. On finance des porteurs de projets. On fait pousser des pétitions auprès des citoyens. Enfin, tu vois, on a vraiment une palette d'activités qui est très diversifiée. Et ça, c'est super agréable parce que bah, je vois mon impact, quoi. Chez Enablon, c'était pas pareil parce que c'était du B2B. Donc, j'avais pas de contact direct avec mon impact. Moi, j'aidais les gens qui, eux, avaient de l'impact, à savoir des responsables de développement durable ou des responsables RSE. Là, chez Ferme d'Avenir, quand j'ai une ferme au téléphone et qu'on l'aide à lever des sous sur Bluebees ou qu'on l'appelle pour lui dire qu'elle est lauréate d'un concours et qu'elle va avoir 10 000 euros pour construire une serre, bon, bah là, tu sais pourquoi tu t'es levé le matin, quoi. C'est vraiment c'est très satisfaisant. Là, je rentre d'une semaine en Normandie où on a organisé une semaine de formation pour apprendre à des porteurs de projets tout ce qu'il faut savoir pour, enfin, d'un point de vue plutôt administratif, juridique, sur la création de micro-fermes maraîchères en agroécologie, des micro-fermes qui sont viables économiquement. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'en une semaine, ils savent tout faire, mais en tout cas, c'était une belle introduction. C'était un peu comme, un incubateur pour porteurs de projets agroécologiques. Et bah, c'était génial parce qu'à la fin de la semaine, on a fait un tour de table. Ils avaient des retours dithyrambiques sur la formation en disant qu'ils avaient une bien meilleure vision de à quoi ça pouvait ressembler. Ils avaient su plein de conseils qui allaient beaucoup les aider. Et donc sur les 15, peut-être que dans 2 ans, il y en aura 10 qui vont lancer une ferme.
Alors j'ai deux questions qui me viennent en même temps. L'une sur tes activités à côté de Ferme d'Avenir, savoir si tu as d'autres activités annexes, et une autre qui est un petit peu plus par rapport à l'experte dans l'agroécologie qui est en toi. Si tu peux nous parler un petit peu de l'agroécologie, nous expliquer en quoi c'est important et comment est-ce que vous essayez de favoriser ce type d'agriculture au sein de Ferme d'Avenir.
Oui, alors la première ta première question donc sur ce que je fais à côté. En fait, je suis bénévole depuis 2013 au sein du Climate Reality Project, qui est l'association qu'a fondée Al Gore suite à son film Une vérité qui dérange en 2007. En fait, quand il a fait son film, bon, bah, évidemment, un retentissement mondial, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu. Et il s'est dit, en fait, je ne peux pas être le seul dans le monde à faire cette présentation-là avec PowerPoint sur le changement climatique. Il faut qu'on soit des milliers à faire ça. Dans un contexte en plus aux États-Unis où bon, y a beaucoup plus de climato-sceptiques qu'en France, enfin, le débat à la politique n'est pas la même. Et donc, très rapidement, l'année d'après la sortie de son film, il a organisé dans son ranch une formation avec 50 personnes où il leur a refait cette présentation qu'il fait dans le film en les coachant et en leur expliquant comment il fallait faire, tout simplement. Quel message passer, tel slide, pourquoi dire ça comme ci, comme ça, la science climatique. Il avait fait venir des experts du GIEC pour apprendre. Et donc, à la sortie de cette semaine, il y avait 50 personnes qui étaient capables de faire cette formation comme lui dans des écoles, des entreprises, des festivals. Et du coup, il a dit je vais monter une asso pour former les gens à grande échelle à faire cette présentation. Et donc, il a fondé le Climate Reality Project, dont l'un des projets phares est effectivement ce training, comme ils disent, qui a lieu 2 à 3 fois par an, partout dans le monde. Donc, il le fait systématiquement une fois par an aux États-Unis et une autre fois partout, en général dans un pays anglo-saxon. enfin en tout cas pas forcément un pays anglo-saxon, mais un pays où les gens parlent pas mal anglais, en tout cas plus qu'en France. Et donc il l'a déjà fait vraiment aux Philippines, au Brésil, en Afrique du Sud, à Londres, en Turquie, au Canada, enfin vraiment il l'a fait partout, sauf en France. Il l'a pas... J'essaye de faire du lobbying interne pour qu'il le fasse en France, mais il a pas encore, ils n'ont pas encore décidé de le faire en France. En Europe, ils ont fait une fois à Londres, une fois à Berlin, une fois à Madrid, ou à Barcelone, je ne sais plus, mais en Espagne en tout cas. Et donc, voilà, moi j'ai fait cette formation à l'époque avec Enablon. Je voyageais une à deux fois par an à Chicago pour le boulot, parce qu'Enablon avait des bureaux à Chicago. Et donc, j'ai profité d'y aller parce qu'il y avait une formation à Chicago. Et donc, depuis, j'ai été très, très impliquée dans la formation. J'ai été mentor à plusieurs reprises pour accompagner les nouvelles personnes qui suivaient les formations. Parce que maintenant, c'est des formations qui deviennent vraiment assez imposante. On peut être plusieurs centaines de personnes par formation. Et donc, depuis deux ans, je coordonne maintenant tout le réseau des bénévoles français qui ont suivi cette formation partout dans le monde. Puisqu'à chaque fois, à chaque session, il y a toujours 3-4 Français qui participent. Et donc, on doit être une soixantaine en France. C'est un peu sur le modèle de ce que peut faire la fresque du climat, quoi. Plein de bénévoles qui vont prendre la parole dans plein de communautés pour parler du climat. Bah, nous, on fait un peu ça aussi. Sauf que le format n'est pas le même. Nous, au lieu que ce soit un jeu de cartes, on fait la formation PowerPoint d'Al Gore. Et d'ailleurs, je suis aussi animatrice du climat parce qu'il y a beaucoup de gens de la fresque, et notamment Cédric, l'inventeur de la fresque, qui est aussi... Climate Leader, et qui est aussi passé par l'association. Donc, on a beaucoup de personnes en commun entre les deux groupes de bénévoles. Et donc, voilà, c'est ça que je fais aujourd'hui à côté de Ferme d'Avenir.
Et alors, sur la deuxième question liée à l'agroécologie,
Alors, l'agroécologie, alors, bon, déjà, je vais te corriger, je suis loin d'être une experte en agroécologie. Je ne suis pas agronome, je ne suis pas agricultrice, donc ce serait très prétentieux de ma part de dire que je suis une experte. Mais effectivement, le rôle de Ferme d'Avenir, c'est de faire pousser des fermes agroécologiques en France. Et donc, l'agroécologie, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas défini par un cahier des charges, l'agroécologie. C'est pas comme en agriculture bio. Tout le monde a un peu cette définition de l'agroécologie. Et donc, nous, chez Ferme d'Avenir, on a essayé d'avoir notre propre définition. Et en fait, pour nous, des fermes agroécologiques, c'est des fermes qui permettent de nourrir la population avec des aliments sains et de qualité. Donc ça, c'est pour le volet, entre guillemets, un peu social. En préservant le capital naturel planétaire, donc pour l'enjeu environnemental, mais aussi en garantissant une activité viable et résiliente pour les agriculteurs. Donc ça, c'est pour le volet économique. Et donc, en fait, l'agroécologie, elle se définit par notamment des pratiques qui peuvent être les sols vivants ou l'agroforesterie. Et comme je te le disais, il n'y a pas de cahier des charges, ce qui est un peu compliqué parfois pour définir est-ce que cette ferme, elle est agroécologique ou non. Et donc, nous, on a créé ce qu'on appelle chez Ferme d'Avenir la fleur de l'agroécologie. Donc, c'est quelque chose qui est disponible sur notre site internet que je vous invite à aller voir. C'est une espèce de roue qui permet de définir les grands... axes de ce que devrait être une ferme agroécologique. Et ce qui est compliqué aussi parfois, c'est de... On essaye de ne pas avoir une vision trop idéologique en disant telle pratique, elle est bien, telle pratique, elle n'est pas bien. En fait, on essaye de réfléchir plutôt en termes de résultats que de moyens, en fait. Et de ne pas mettre les fermes en concurrence en disant toi, t'es bio, t'es mieux que l'autre qui n'est pas bio, mais peut-être que l'autre, elle fait des sols vivants. Et du coup, enfin, voilà, on essaye de ne pas mettre des pratiques en concurrence. Et d'essayer aussi d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas être parfait à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'une ferme, pour être viable, pour être durable, il faut aussi qu'elle soit viable économiquement. Et donc, si on veut être parfait à tous les points de vue environnemental, point de vue social, l'équilibre économique, il est quand même plus difficile à trouver. Et donc, il faut faire des compromis. Peut-être qu'on va devoir utiliser de temps en temps un petit tracteur sur la ferme pour... gagner du temps de travail, mais ça va nous permettre aussi d'atteindre un équilibre économique et donc de faire que la ferme va être viable dans la durée. Et donc voilà, c'est tous les compromis qu'on essaye de représenter sur cette fleur qu'on a imaginée, qui permet de dire, nous par exemple, on est plus, cette ferme, elle est davantage elle a une meilleure performance sur l'impact, par exemple, connexion au territoire et carbone et énergie. Par contre, elle est un petit peu moins résiliente parce que, par exemple, elle va être dépendante de matière organique qu'elle ne produit pas sur sa ferme et qu'elle se fournit auprès d'une autre ferme, par exemple. Donc voilà, c'est notre manière à nous de présenter une vision de l'agroécologie qui n'est pas soumise à une idéologie et qui essaye de faire des compromis.
D'accord, bah je te remercie pour ces explications. Concernant le futur, comment est-ce que tu perçois l'avenir? Quels sont tes projets?
Bah écoute, pour l'instant, je me sens très bien chez Ferme d'Avenir parce que je me sens nourrie par ce que je fais. Je suis épanouie, j'aime beaucoup les programmes, j'adore mes collègues, donc pour l'instant, je suis bien. Et j'aimerais bien, en fait, après, c'est très personnel, mais je ne me vois pas forcément partir de Ferme d'Avenir. C'est-à-dire que si je devais travailler sur le sujet de l'agriculture durable et de l'agroécologie encore pendant 10 ou 15 ans, ça ne me poserait pas de problème parce que je m'y suis trouvée. Et c'est aussi quelque chose qui me comble d'un point de vue personnel parce que quand j'ai mes collègues agronomes qui me parlent de telles pratiques, ben moi, je peux ensuite aller dans mon potager essayer de couvrir le sol ou faire ci ou ça de telle manière. Donc, c'est quelque chose qui a du répondant aussi dans ma vie privée. Et donc, ça, c'est très enrichissant. Après, en termes de compétences, c'est vrai que ben, on est aussi épanoui quand on prend régulièrement des responsabilités, que régulièrement, on progresse. Donc là, pour l'instant, je viens d'avoir des nouvelles casquettes. Donc voilà, peut-être que dans 2-3 ans, j'aurai à nouveau le besoin de grandir et de prendre des nouvelles responsabilités et d'avoir des nouvelles missions parce que j'aurai fait le tour de celles que j'ai actuellement. Et dans ce cas-là, on verra où en est Ferme d'Avenir à ce moment-là. C'est plutôt de ce point de vue-là que je me vois dans plusieurs années. Ouais, c'est évoluer en termes de compétences et de responsabilités. Par contre, en termes d'enjeux et de sujets, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait. Alors peut-être qu'un jour, une opportunité m'emmènera à travailler dans l'énergie ou dans la biodiversité, j'en sais rien. Mais en tout cas, le côté ONG, entrepreneuriat social, la grosse thématique environnementale, écologique, c'est quelque chose qui me plaît et qui est fait pour moi.
Et si on partait maintenant dans le passé, si tu avais la possibilité de te téléporter en 2008 et de revenir à l'ESSEC et de parler à la Marion de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais?
Oh là là, c'est dur comme question. En 2008, je lui dirais continue comme ça, aie confiance en toi, mais ce que tu fais, c'est bien. C'est comme ça que ça va marcher. Je lui dirais peut-être d'avoir un peu plus d'expérience en bénévolat. Moi, ça, je sais que ça m'a manqué. Je venais pas d'une culture familiale où on faisait beaucoup d'associatifs, on faisait du bénévolat. Et j'avais pas ce réflexe-là. Alors, j'ai fait une mission humanitaire, mais c'était ponctuel. Et au contraire, moi, je pousse toujours les étudiants à rejoindre une association en tant que bénévole. Je trouve que c'est super enrichissant. Quand j'ai rencontré mon mari, lui, il était actif dans plein d'assos. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment super. Donc, je pense que je lui dirais, continue comme ça, travaille ton réseau. Rajoute des cordes à ton arc, mais n'oublie pas de faire, par exemple, toutes les semaines, une heure ou deux de bénévolat dans une asso, ou rejoindre une association étudiante de l'ESSEC. Ça, je pense que c'est un truc que j'aurais pu faire qui aurait été intéressant. Et sinon, essayer de chercher le plus vite possible des missions professionnelles en lien avec ce qu'on veut faire, des stages. Parce que moi, par exemple, j'avais pas trop de stages dans ces sujets-là. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en France, on est vite catalogué. Si on a fait un stage dans la logistique, bah après, si on cherche un stage dans le marketing, on nous dit « Ah bah oui, mais vous avez fait de la logistique avant, vous allez... » Enfin, les gens, ils nous catégorisent beaucoup, beaucoup plus que, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est un peu frustrant de s'en défaire. Même maintenant, hein, même à 34 ans, si demain, je veux partir faire autre chose, on va me reproposer encore des jobs dans la communication. Même des fois, on peut me solliciter pour des boulots et c'est toujours pour de la com. Et je suis là, non, mais c'est bon, la com, je sais faire autre chose aussi. Et donc, c'est... Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais aux gens, c'est d'avoir un maximum d'expérience possible et de ne pas se cantonner à un sujet et d'essayer de se diversifier au maximum.
Tu l'as évoqué deux fois aussi, le fait que tu manquais d'expérience en associatif ou en ONG, c'est quelque chose qui t'a manqué pour trouver du travail dans ce secteur ou plus au niveau du point de vue enrichissement personnel?
Je pense un peu les deux. Je pense qu'il y a une grosse crise de sens chez notre génération, ce qui fait que les associations, quand elles cherchent des gens, elles sont littéralement, elles croulent sous les demandes. On reçoit des centaines de candidatures. Et je sais que quand je cherchais du boulot et que je candidatais à des jobs, il y avait des centaines de personnes qui avaient peu ou prou les mêmes compétences que moi et qui atterrissaient sur le même bureau du recruteur. Et je pense que c'est humain, les recruteurs, deux CV identiques d'une personne qui a un an d'expérience, c'est-à-dire presque rien. Et c'est pas péjoratif, c'est juste, c'est comme ça. Bah forcément, ils vont prendre quelqu'un qui a peut-être déjà fait 3 ans de bénévolat dans une asso en parallèle de ses études. C'est humain. Et moi, je fais pareil. Quand je recrute des stagiaires, si je vais recruter quelqu'un qui a déjà fait du woofing sur une ferme ou qui connaît déjà un petit peu le milieu, parce que je me dis, bah, c'est quelqu'un qui s'y intéresse depuis plus longtemps, qui a fait des efforts, qui connaît déjà le milieu, les codes, le langage, le vocabulaire, tout ça. Et donc, bah, moi, c'est quelque chose que j'avais pas. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et je trouve que, encore une fois, moi, j'ai essayé de... Enfin, connaissant ces lacunes-là, j'ai essayé de me construire ce bagage en me disant, bon, bah, j'essaye de rajouter cette espèce de patine sur mon CV à différents endroits qui démontre mon intérêt. Donc, j'avais le Climate Reality Project, j'avais mon mémoire de fin d'études que j'ai fait sur ces sujets-là, j'avais ma mission humanitaire, tu vois, pour... Parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'aurait rien sur son CV, on lui dit bah, « Pourquoi vous voulez travailler là-dedans » En fait, qu'est-ce qui le démontre? Et ça, je trouve que c'est très important. Après, on peut aussi se réveiller à 35 ans en se disant « En fait, j'ai envie de travailler là-dedans et du jour au lendemain. » Et c'est pas grave, à la limite, enfin, tant mieux, c'est génial, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mais du coup, c'est vrai que la transition est plus difficile à faire quand on n'a jamais... bosser ou ne serait-ce que réfléchir à ces sujets-là. Donc souvent, quand il y a des gens qui m'appellent pour me dire « Ah ben voilà, t'as fait le programme en purpose, qu'est-ce que tu conseilles ?» Je conseille en général « Lisez des bouquins, faites toutes les conférences sur Paris, il y en a presque tous les soirs sur ces sujets-là, faites un peu de bénévolat, du mécénat de compétences, je ne sais quoi, mais voilà, pour montrer quelque chose de tangible en fait. »
Eh ben, c'est très clair et encore une fois, tu m'as devancé sur les questions puisque j'allais te demander quels sont les conseils que tu pourrais donner à des gens qui se posent des questions aujourd'hui, qui sont soit en études ou soit déjà en poste, et aussi quelles seraient les recommandations de lecture.
Oh là là, de lecture, j'en ai trop pour te les lister comme ça, c'est pas facile. De lecture sur la transition, moi je me souviens, mais bon, maintenant, c'est un livre qui est un peu vieux, je ne sais pas s'il a été remis à jour, mais j'avais lu « Un métier pour la planète et surtout pour moi » d'Elisabeth Laville, donc, qui est une référence dans le milieu. Et donc, j'avais lu ce livre-là quand j'étais étudiante et j'avais bien aimé, parce que ça donne plein de pistes, en fait. C'est tellement vaste, les carrières à impact, que ça peut être beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc, voilà, lire ce livre-là... lire les livres de fondateurs de... Bah, moi, le livre de Mathieu Dardagnon, de Ticket Fortune, ça m'avait pas mal inspirée, parce que c'est sur l'entrepreneuriat social, mais ça t'explique quand même pas mal de choses, ça te donne des tuyaux de structure. Voilà, et moi, ouais, le conseil, c'est se forger une grosse culture générale. Donc, que ce soit des films, des livres, des documentaires, des conférences, travailler son réseau. Faut pas hésiter à ajouter des gens sur LinkedIn, des gens qu'on trouve inspirants, et dire voilà, j'ai envie de me rediriger vers ça, j'aimerais bien poser des questions, est-ce que je peux vous inviter à déjeuner, vous inviter à boire un verre, ou juste vous appeler au téléphone une demi-heure pour avoir des conseils, faire du bénévolat, et surtout, franchement, y croire, quoi, croire en ses rêves. Je me souviens aussi quand j'étais étudiante que je commençais à faire des... C'était le début des salons un peu carrière à impact, etc. Et j'avais vu Tristan Lecomte qui avait fait une conférence sur justement ses projets de l'époque dans le commerce équitable. Et il avait dit « Oui, moi je reçois tous les jours des CV de jeunes qui veulent changer le monde et qui veulent venir travailler avec moi pour changer le monde. Et je leur réponds qu'il faut, avant de vouloir changer le monde, il faut surtout des compétences. Et il faut surtout pouvoir travailler sur son employabilité et ses compétences. Et il avait effectivement raison, parce que juste changer le monde, ça veut pas dire grand-chose si on n'a pas de compétences derrière qui peuvent intéresser des structures. Et en même temps, je me souviens, en étant étudiante et en avoir entendu ça, ça m'avait un peu cassée. Enfin, j'étais là un peu déçue en me disant « Ah bah merde, moi j'ai toute l'envie du monde et toute l'énergie à mettre là-dedans et j'avais l'impression que c'était pas assez. » Donc c'était un peu dur à entendre. Et en même temps, c'était un bon conseil parce que j'ai suivi ses recommandations, j'ai travaillé sur mes compétences professionnelles et au final, c'est ça qui m'a valu mon job chez Ferme d'Avenir. Parce qu'ils m'ont pas recruté parce que j'avais envie de sauver la planète, ils m'ont recruté parce que je savais piloter un département communication. Et donc voilà, faut arriver à se remettre en question et à suivre ses rêves, même si c'est pas facile.
C'est un super message. Marion, je te remercie beaucoup pour cet échange et je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour Ferme d'Avenir. Et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, JP.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !